Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Ravi de vous retrouver, riposter ou négocier. Comment répondre à l'assaut commercial lancé par Donald Trump? On a entendu depuis 24 heures des économistes, des patrons. Et vous, qu'en pensez-vous? Œil pour œil, dent pour dent, voilà ce que répondent une majorité de Français, deux tiers des Français selon un sondage Elabe dont on va parler ce soir avec nos éditorialistes. Bonsoir Christophe Barbier.
Bonsoir Perrine.
Bonsoir Yves Tréhard.
Bonsoir Perrine.
Victor Hérault est également avec nous autour de la table. Bonsoir, bonsoir Victor, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir Franck Rosenthal.
Bonsoir.
Vous êtes expert grande consommation et commerce et notre invité politique du soir. Bonsoir Sandrine Rousseau.
Bonsoir.
Députée écologiste et sociale de Paris, on va évoquer avec vous tout à l'heure les secousses politiques liées à la condamnation de Marine Le Pen avec ce match des meetings, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, dimanche, entre le Rassemblement national et la gauche. Mais d'abord, quelle riposte adopter face à un Donald Trump qui se présente comme le meilleur médecin pour l'Amérique? Écoutez.
Il y a des milliards et des milliards qui arrivent dans notre pays, c'est sans précédent. Les marchés vont augmenter en flèche, la bourse, le pays va se développer. Et les pays du monde veulent faire affaire avec nous. Ils ont profité de nous pendant tant d'années. Ils ont profité de nous. Et je peux vous dire que tout va bien se passer.
Et Donald Trump qui se compare dans cette déclaration à un médecin pour l'Amérique. Alors vous avez la double casquette, vous Sandrine Rousseau, puisque vous êtes élue, mais vous êtes aussi économiste. Le protectionnisme est-il une thérapie efficace pour l'économie comme le soutient Donald Trump?
Ça va être affreux pour le peuple américain et particulièrement pour les plus pauvres aux États-Unis, qui vont voir une inflation assez importante probablement sur les produits qui jusqu'à présent étaient peu chers et donc achetés évidemment par les personnes les plus pauvres. Et donc en fait, ce que dit Trump, c'est qu'il n'en a rien à faire des conséquences sociales à l'intérieur de son propre État, des mesures qu'il va prendre. Et je voudrais dire quand même qu'en fait, c'est l'histoire du libéralisme économique. C'est-à-dire que le libéralisme économique vous vante monts et merveilles, vous vante la croissance, le partage des gains de la croissance, de la productivité. Puis à un moment donné, les grands capitalistes s'aperçoivent qu'ils n'ont plus... c'est pas grâce à leur génie qu'ils y arrivent, mais grâce à des ressources naturelles, des matières premières, etc. Donc ils vont, pour s'allier la population, avoir un discours national, c'est ce que fait Trump, et avoir un discours colonial ou impérialiste pour aller chercher les ressources naturelles. C'est exactement ce qu'est en train de faire Trump, mais pour moi, c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'une mondialisation libérale et en fait, on atteint les limites presque physiques du modèle de croissance tel qu'on est actuellement.
Vous dites que ça va être terrible pour les Américains. Oui. Donc, si je comprends bien, la riposte à adopter, pour vous, il ne faut surtout pas rentrer dans une espèce de spirale protectionniste et répondre coup.
Je pense que l'Europe doit être unie et avoir une réponse forte et coordonnée. Ouais. Mais ce que va essayer de faire Trump probablement, c'est d'aller chercher un pays en Europe pour négocier avec lui de manière particulière des biens qui l'intéressent, puis avec un autre pays, et comme ça affaiblir l'Europe en tant que puissance économique et sociale. Et c'est un projet qui peut aboutir, parce que là, évidemment, le choc, la manière dont il l'a annoncé, avec la brutalité avec laquelle il l'a annoncé, évidemment, il y a plein de chefs d'entreprise qui sont extrêmement inquiets de la situation et inquiètes. Et donc, les chefs d'État vont essayer de parer au plus pressé et de faire le moins mal possible à leur économie. Donc, il est tout à fait possible qu'il arrive à mettre des coins à l'intérieur de l'Europe.
Ça, c'est la stratégie de Donald Trump. Mais notre stratégie à nous, Européens, vous dites qu'il faut une réponse unie. Il faut qu'on fasse bloc face à Donald Trump. Mais quelle réponse adopter? Parce qu'il y a deux choix qui se présentent à nous. C'est soit la manière forte, ce que je disais, œil pour œil, dent pour dent, on rend coup pour coup avec des droits de douane réciproques, ou alors on passe sur une riposte graduée et on prend la voie de la négociation. Qu'est-ce que vous préconisez?
Il faut taper là où ça fait mal, c'est-à-dire d'abord annoncer l'augmentation des droits de douane. Il faut aller taper sur les GAFAM et les grandes entreprises américaines, parce qu'aujourd'hui, elles sont exemptes de contraintes à l'intérieur de l'Union européenne. Et puis derrière, il faut que nous ayons aussi une bifurcation de notre économie européenne pour faire en sorte que nous soyons souverains, autonomes, et que nous prenions ce virage de la transformation écologique, parce qu'à la fin
d'un libéralisme, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit on va dans une guerre de tous contre tous pour l'appropriation des ressources, soit on a une transformation écologique qui permet la sobriété et qui permet d'avoir un espoir de paix et
donc,
de développement.
Si je vous entends bien, vous êtes pour une riposte graduée. Davantage sur la ligne Emmanuel Macron.
Pour une riposte graduée, mais avec des choses qui font mal, comme les GAFAM. Moi, je pense qu'il faudrait tout de suite annoncer de manière coordonnée en Europe des mesures très fortes sur les GAFAM pour taper de manière chirurgicale sur des domaines qui feraient très mal aux États-Unis.
On va y revenir dans un instant, mais j'aimerais qu'on regarde ensemble, Christophe, ce sondage Elabe pour les Échos, parce que je le disais, on a beaucoup entendu depuis 24 heures les politiciens, politiciennes, les économistes, les patrons, les milieux économiques, mais on a peu entendu l'opinion. Et c'est intéressant, quand on demande aux Français comment il faut réagir, il y a près de 2 Français sur 3 qui souhaitent une réponse ferme, réciproque, en imposant des droits de douane similaires aux États-Unis. Ils sont que 34% à soutenir la voie de la négociation avec les États-Unis. Donc on sent que les Français sont très remontés et que eux, pour le coup, ils privilégient le œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce que ça traduit ?
Ça traduit d'abord la compréhension qu'ont les Français de ce phénomène. Ils se sont bien rendus compte qu'en pénalisant l'exportation des biens français, ça allait pénaliser en retour l'emploi chez nous. Et que, évidemment, si les firmes françaises font moins d'affaires avec les États-Unis, si elles perdent des marges, eh bien, ça va se ressentir dans notre pays. Soit parce que l'emploi en souffrira, soit parce que les prix augmenteront chez nous pour compenser la perte de recettes venue d'un marché qui deviendrait plus difficile. Il faut prendre en compte quand même le 34%. Cette base de Français qui se dit mais on n'est pas assez fort, on n'est pas assez unis au niveau européen, on n'a pas l'économie capable de résister à Trump, donc autant négocier parce que quand autour de lui d'autres pays cèdent, c'est ce qu'on a vu un peu avec l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, bah finalement lui il se fait la patte plus douce. Donc il y a quand même cet aspect-là qui est à prendre en compte.
Inquiétude des conséquences de cette offensive douanière qui, on le voit à travers ce sondage, est réelle chez les Français. Il y a un autre chiffre qui est intéressant, Franck Rosenthal, 78% des Français estiment que c'est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs européens. Est-ce qu'en l'état, les consommateurs européens vont être impactés ?
C'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle. En tout cas, ça en prend la direction. Maintenant, je crois qu'on va revenir sur les 34% qui parlent de négociation. Et bon, je crois que Donald Trump, on le connaît, c'est un négociateur. Et il fait des deals. Voilà. Donc, alors hier, il a pris tout le monde de court. Mais pas tant que ça, quand même, puisque c'est annoncé depuis 6 mois sur sa campagne électorale. Donc, ce n'est pas une énorme surprise. C'est-à-dire, tout le monde a l'air surpris aujourd'hui. Ce n'est pas une énorme surprise. Par contre, la façon dont il l'a fait pose problème. Donc, à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond. Parce que les chiffres sont contestables. Alors, je vais prendre le chiffre de l'Europe, qui a été donné, qui est 39%. Bon, bah, y a vos confrères des Échos qui, demain matin, donnent un chiffre de 5% actuellement sur...
C'est même 3%.
Les droits
c'est même,
de douane.
Alors, selon les données officielles de la Commission européenne, on est sur une moyenne de 4%, le taux moyen des droits de douane appliqués par l'Union européenne. Voilà. Donc, effectivement, on est très loin des 39%.
Voilà. Donc, alors, moi, je pense que, par rapport au chiffre qui est sorti à 39%, on ne peut pas ne pas négocier. Il n'y a pas d'autre possibilité. Vous ne pouvez pas accepter un chiffre comme ça et répliquer. Il faut, dans un premier temps, contester le chiffre. Il semblerait que ces chiffres soient venus des intelligences artificielles. Bon, quand on sait aujourd'hui que ChatGPT, vous avez 70% des requêtes qui sont exactes et 30% qui sont fausses, on a des chiffres faux. Donc, ou on accepte ces chiffres faux et on dit qu'il faut riposter, quitte à dire ce que le président de la République a dit cet après-midi, il faut cesser les investissements aux États-Unis. Alors que je rappelle juste un chiffre.
Oui, c'est ce qu'il a demandé aux entreprises, c'est d'arrêter les investissements et de suspendre les projets qui sont en cours le temps de la négociation, parce qu'il croit effectivement à une voie de passage en termes de négociation.
Alors, pour une entreprise, le temps de la négociation, ça veut dire quoi ? Enfin, vous voulez vous implanter aux États-Unis, c'est le temps de la négociation ? Qui sait si dans un an, ça sera négocié ? Donc, ce n'est pas possible. Et en plus, si on regarde les chiffres, alors je n'ai pas les chiffres français, mais l'année dernière, les investissements des entreprises européennes, pour la première fois en 2024, ont été supérieurs aux États-Unis par rapport à la communauté européenne. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de 24% quand c'est 23% des investissements qui se font sur l'Union européenne. Donc, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était fin décembre, et là, on est en mars et on dit « Non, non, on ne va plus investir ».
Je posais la question de l'impact, là, en l'état, sur le consommateur français, parce qu'on dit beaucoup, voilà, il y aura un impact sur le consommateur français si on rentre dans une spirale protectionniste et donc qu'on augmente les droits de douane en retour, ce sont les consommateurs français qui paieront plus cher les produits américains. Mais il y a un autre impact aussi à partir du moment où les entreprises françaises aujourd'hui sont impactées en matière d'exportation vers les États-Unis, c'est l'emploi.
Bah, évidemment, mais de toute manière, tout le monde est perdant dans cette histoire. Hein. C'est-à-dire, les Américains vont être évidemment les premiers touchés, les Européens, les Asiatiques, tout le monde va être touché. C'est-à-dire que c'est une situation qui est apocalyptique et qui est absolument tragique. Tragique, parce que, contrairement à ce que vous dites, c'est pas la fin du libéralisme. C'est parce que c'est un homme qui a décidé de mettre un point final à une tradition qui est une tradition qui date de l'après-guerre, de l'ouverture des marchés et qui était la meilleure des solutions justement pour lutter contre la pauvreté. Et là, le fait que tout le monde se replie sur soi-même, ça va être tragique. Simplement, la solution qui peut être sortie par les Français.
Alors attendez, avant de parler de la solution, juste sur les conséquences, on va parler des solutions dans un instant.
Oui, parce qu'on n'a pas tout dit. Mais alors sur les consommateurs, évidemment, mais on peut aussi changer notre.
Mais sur les consommateurs et sur l'emploi, Sandrine Rousseau, j'entendais le président du MEDEF qui disait des centaines de milliers d'emplois sont menacés en France. Oui. Est-ce que vous faites le même constat?
Bien sûr, mais il y en avait déjà avant cette crise-là. Il y en aura évidemment davantage. Quand vous dites ça n'est pas la fin du libéralisme, qu'est-ce qu'on fait?
Ce n'est pas la fin naturelle du libéralisme.
Ah, mais je pense que c'est exactement la fin naturelle du libéralisme. C'est-à-dire qu'on est dans un régime de croissance qui fait que si vous continuez sur cette trajectoire-là, vous êtes obligé de vous approprier des ressources rares, des ressources naturelles, d'où le Groenland, d'où les taxes à peu près partout, d'où l'accord avec l'Ukraine. Et en fait, c'est soit on arrive pour une appropriation sauvage et violente des ressources et des matières premières indispensables à maintenir le système de croissance américain, soit on change de modèle économique. Et c'est ça l'enjeu de l'Europe aujourd'hui.
Allez-y. Mais après, on va recentrer les débats sur la
réponse. Je vais répondre à l'emploi.
Non, mais on va pas faire tout un débat sur le libéralisme.
Il y a plusieurs centaines de milliers d'emplois qui vont être concernés, évidemment. Et particulièrement dans les secteurs qui sont déjà en difficulté, c'est-à-dire l'automobile, c'est-à-dire l'agriculture, mais tous les emplois aussi sur les filières où on a favorisé le libéralisme de manière sauvage.
Alors, en un mot, Yves, et après on revient sur les leviers possibles et la riposte possible pour l'Union européenne.
Je vais répondre sur l'emploi par un biais qui est peut-être inattendu. Qu'est-ce que dit Donald Trump? Il dit, en fait, en gros, je veux réindustrialiser le pays pour créer des emplois et pour créer de la richesse. Le problème, c'est qu'il y a énormément de matériaux qu'il achète et qu'il importe, que les États-Unis importent, qu'ils sont incapables de faire sur le territoire américain. Je vous en cite un qui est grossier, facile, le champagne. C'est pas parce que vous allez fermer la porte au champagne que vous allez pouvoir faire du champagne aux États-Unis.
Non, mais ils pensent qu'ils vont consommer des produits californiens.
Mais oui, mais c'est pas le cas. Mais ça sera pas le cas parce que la demande ne sera pas celle-ci. Donc c'est là où c'est grotesque comme.
Après, si en dessous les Américains se défendront,
les riches consommeront encore du champagne.
Alors après, sur le libéralisme, si vous voulez bien, je vais vous répondre très rapidement.
Très rapidement.
Le libéralisme, au contraire, c'est les frontières qui s'ouvrent, ce qui était le cas. Avec une régulation, je ne connais pas de situation et de solution meilleure que ça.
Bon, alors attendez, l'urgence.
C'est votre opinion. J'en ai une très différente, parce que sinon, on ne serait pas dans le problème écologique face auquel on est, qui est quand même une limite très physique et planétaire.
Attendez.
Mais ce n'est pas incompatible, vous n'avez pas haussé le ton.
Attendez, on va revenir sur. On va revenir là sur la riposte de l'Union européenne dans l'immédiat, parce que là, il va falloir répondre. C'est ce qu'Emmanuel Macron a dit, Ulysse Gosset. Il va y avoir un temps de réponse. Enfin, ça va se faire en deux temps. Il va d'abord y avoir une première réponse mi-avril, mais ça, c'est pour la première attaque sur l'acier et l'aluminium. Et puis la deuxième réponse, fin avril, réponse coordonnée de la part de l'Union européenne. Et là, on s'oriente donc vers une riposte graduée, avec parmi les leviers de pression possibles, vous l'évoquiez tout à l'heure, Sandrine Rousseau, les services numériques. Qu'est-ce qu'on considère? En quoi ça pourrait consister, des taxes sur les services numériques? Est-ce que nous, ça pourrait nous impacter? Et de quelle façon?
C'est l'arme nucléaire.
C'est l'arme nucléaire, vous
dites ? Oui, parce que si on touche aux services, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement les GAFA, ce n'est pas simplement les géants du numérique, c'est les banques, c'est la finance, c'est les services en général, les voyages, etc. Et ça, effectivement, si l'Europe s'en prend aux services américains, c'est une déclaration de guerre très puissante et que ne veulent pas encore utiliser les Européens. Mais il y a un débat au sein du gouvernement français et il y a un débat également à Bruxelles sur le fait de savoir si on touche aux services américains. C'est ce qu'on appelle des mesures dites coercitives. Il y a un plan, hein, qui existe. En fait, on dit toujours que l'Europe n'est pas prête, mais en réalité, les experts à Bruxelles ont préparé un certain nombre de mesures qui pourraient, donc, par exemple, imposer des droits de douane très importants sur tous ces services américains. Et comme c'est là-dessus qu'il y a un avantage commercial très net des États-Unis, ça ferait très mal. Donc, c'est ça la mesure la plus redoutée par les Américains.
Est-ce que ça ne nous ferait pas très mal aussi à nous? Parce que tous ces logiciels, ces plateformes de streaming, etc., nous, on les utilise en tant que consommateurs, les entreprises les utilisent, donc tout ça, on va payer aussi de notre poche.
Ah, mais de toute façon, les consommateurs paieront.
Une anecdote
quand même. Ouais. Vous savez, vous disiez, première négociation le 12 avril pour l'Europe, hein, pour savoir comment on va répondre aux taxes sur l'aluminium et l'acier. Mm-hmm. Que fait-on avec l'aluminium? On fait des boîtes de bière, des canettes de bière que boivent les Américains en quantité. Donc ça veut dire que pour les consommateurs américains, pour les amateurs de bière, et ils sont nombreux, la bière va augmenter parce que les canettes d'aluminium vont augmenter. Donc le premier impact qui va être ressenti par les Américains, ça va être la hausse des automobiles, plus 25%. Volkswagen a annoncé tout à l'heure à ses dealers qu'il fallait mettre donc une petite affichette sur toutes les voitures neuves, plus 25%. Et ils ont déjà décidé d'arrêter d'exporter des voitures déjà fabriquées au Mexique vers les États-Unis. Donc, effet concret, la bière va augmenter. Si on touche à la bière, c'est comme si on touchait, je ne sais pas comment le comparer à la France, mais au fromage ou au vin. Et donc, si vous voulez, ça c'est pour les premiers touchés vont être les consommateurs américains. Si vous touchez au service, ça va être le portefeuille des géants du numérique qui va être atteint. Ça va être les banques. Et ça, on touche à des milliards de
dollars. Mais les ça risque d'avoir des conséquences aussi pour le consommateur.
Mais oui, et pour les entreprises françaises aussi.
Mais je reviens aux produits de base. Quand vous fabriquez des iPhones, il y a des produits rares, il y a de l'or même.
Il y a du titane.
Ouais. Si ces produits sont taxés, puisque la Chine, je le rappelle, c'était 34% hier, plus 20, ça fait 54. Tout ce qui vient de Chine, où sont fabriqués en particulier les téléphones mobiles, une bonne partie d'entre eux en tout cas, ces téléphones vont augmenter de près de 40% aux États-Unis, mais en Europe
aussi.
Donc tout ça va augmenter les prix d'une façon générale et il va y avoir un effet, je dirais à terme.
Mais il y a une arme qui n'a pas été
d'inflation, et probablement de récession à l'échelle mondiale.
Énorme.
À l'échelle mondiale.
Mais les premiers impactés seront les consommateurs américains.
Oui.
Parce que même s'ils
achètent des voitures...
Mais bien sûr, nous aussi, j'y viens. Mais s'ils achètent des voitures américaines qui dépendent de composants, et la plupart des voitures américaines dépendent de composants qui viennent d'ailleurs que des États-Unis, eh bien, ils payeront dans le prix final de leur voiture le prix de l'augmentation de ces matières premières.
Les Américains, ils ont choisi d'élire Donald Trump. Nous, on ne l'a pas choisi, Donald Trump.
Oui, mais
ils ont payé les conséquences, c'est une chose.
Donald Trump a fait toute sa campagne sur l'augmentation du prix des œufs, notamment, qui a joué un rôle conséquent sur l'inflation. Mais là, si les Américains arrivent avec une inflation à hauteur de 10%, parce que ça va se chiffrer à peu près, à mon avis, dans ces eaux-là, eh bien, la stabilité de la société américaine va être menacée. Enfin, je veux dire, là, on est quand même dans une situation qui est gravissime de par la brutalité vraiment économique et de ce capitalisme sauvage qu'entend mener
Donald Trump. Une des répliques qui n'est absolument pas évoquée, j'en suis tout à fait étonné, même de la part du président de la République, c'est que la réplique qui me paraît la plus redoutable, c'est de toucher à la propriété intellectuelle. Fin de la protection de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que tout ce que peut fabriquer hors de ses frontières les États-Unis est protégé par la propriété intellectuelle par définition. Si vous enlevez cette protection de la propriété...
C'est au-delà des tarifs douaniers, ça. C'est une attaque sur un principe.
Mais c'est énorme. Alors là, ça calme tout de suite, je vais vous dire.
Oui, ça calme tout de suite, mais est-ce qu'on peut faire ça?
Évidemment,
c'est quoi? C'est un passeport pour la contrefaçon.
Souvenez-vous de la polémique sur les avoirs russes.
Alors attendez, Ulysse, parce que vous disiez que les services numériques, c'était la bombe atomique.
La bombe nucléaire. Et là, c'est la bombe atomique.
Non, mais
je n'y peux pas.
Alors expliquez-nous.
Fermez dans deux secondes. La plupart des grands cabinets européens sont en train de travailler dessus. Ils se frottent les mains. Parce que c'est évidemment là-dessus. C'est pas avec des droits de douane sur les produits américains que vous allez répliquer.
Mais même sur les services numériques, vous dites quoi? C'est une goutte d'eau, ça n'aura aucun impact.
Mais les services numériques...
Taxer les services numériques.
Oui, mais ça n'aura pas grand impact. Ça aura beaucoup d'impact sur les Français.
Ça ne fera plus mal à nous qu'à
Non, mais il y a aussi la question. Enfin,
Sur les services numériques, ce n'est pas juste de la taxe.
Il y a plein de mesures possibles sur les services numériques.
La propriété intellectuelle, c'est un domaine tellement sensible qu'on a déjà du mal à faire respecter dans le monde entier. Ouais. Il y a des continents entiers comme l'Afrique où les droits de propriété intellectuelle ne sont pas respectés. Si l'Europe y touchait à l'égard de l'Amérique, la réplique serait foudroyante, c'est-à-dire que tous les produits intellectuels européens, les films, la musique seraient...
Ils ont plus à perdre, eux, que nous.
Oui, mais enfin là, on serait dans une véritable...
Une escalade.
Dans une guerre totale. On serait dans l'escalade la plus complète. On n'est pas... Enfin, je ne pense pas qu'on en arrivera là. Mais par contre... Le vrai débat, c'est...
Et ça, pour l'instant, c'est pas sur la table.
Non, pas du tout. Pas du tout, non.
C'est à l'étude.
L'arme qui est sur la table, qui est que j'ai qualifiée d'arme atomique, parce que c'est beaucoup plus
les services
que
numériques.
La réciprocité des 20%, c'est taxer les services. Pas simplement les GAFAM, pas simplement les gens.
Mais c'est la banque, c'est la finance.
Ça nous coûte très cher. Hein.
Mais bien sûr, mais de toute façon, dans une guerre commerciale, tout le monde perd. Et alors, je ne sais pas si c'est la fin du libre-échange ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça va provoquer... Il y a déjà un choc majeur qui a été provoqué par les annonces de Donald Trump, mais si on entre dans une guerre commerciale, encore une fois, ça risque de tendre la situation partout. Regardez les Chinois aujourd'hui, 56% de taxes sur leurs produits exportés aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le principal importateur des produits chinois. Qu'est-ce que vont faire les Chinois, à votre avis? Donc,
si on est parti dans cette
guerre totale, les conséquences seront catastrophiques pour le monde.
J'aimerais vous montrer la une de Libération. Demain, on va la découvrir ensemble. Le monde boit la taxe avec un Donald Trump qui est en train de jouer avec la planète. Nouvel ordre économique mondial, c'est à ça qu'on est en train d'insister. Est-ce qu'on est à un moment de
nouveau désordre.
Désordre, mais est-ce qu'on est à un moment de bascule?
On est dans une période intermédiaire. Il faut regarder ce qui s'est passé aujourd'hui sur les bourses, et particulièrement les bourses américaines. Alors évidemment, les bourses partout ont été impactées. C'est le cas à Paris, c'est le cas dans d'autres pays. Les bourses américaines, donc le Dow Jones, il a terminé un peu moins de 4 points en retrait. Le S&P 500 a terminé à un tout petit peu moins de 5%. En retrait. Donc le S&P 500, c'est les 500 plus grosses valeurs américaines. Et le Nasdaq a terminé à pratiquement moins 6. Donc...
Attendez, j'ai un autre chiffre. Les marchés financiers qui ont perdu 3,1 milliards de dollars en valeur, c'est la plus grosse perte depuis 2020.
Voilà. Et donc, si ça continue, on parle d'un mois de riposte de l'Europe, mais la principale riposte, c'est la bourse. C'est-à-dire que ça n'attendra pas un mois avant qu'il ait la pression.
Non, bien sûr que non.
Voilà, donc il faut qu'on agisse plus vite.
Ce que je veux dire,
c'est ça que vous dites ?
Non, il faudrait agir plus vite. C'est-à-dire que par rapport aux chiffres qui ont été donnés, je reviens sur le chiffre des 39% donnés par Donald Trump, et on serait à 4%, voilà, ou à 3, ou à 5, mais en tout cas, l'ordre il varie de 1 à 10.
Mais il faut expliquer pourquoi il parle de 39%.
Bah oui, il intègre la TVA.
Par exemple,
c'est toutes
les normes sanitaires, etc. Oui. Ils ont fait un calcul.
Et les coûts de bureaucratie. Aussi.
Non, mais alors Barbier nous fera le calcul tout à l'heure. On lui a demandé d'où venaient ces 39%. Il a cherché, il a trouvé, il nous fera le calcul tout à l'heure.
Sauf que la TVA et les coûts de bureaucratie, ça ne s'applique pas uniquement aux produits américains. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans une exception.
Ça veut dire qu'on est sur deux planètes différentes.
Bien sûr.
Et on ne va pas faire changer les Américains leur mode de calcul.
Ah bah sur le rapport de 1 à 10, j'espère qu'on peut négocier. Parce que sinon, c'est à désespérer.
Le président des États-Unis annonce 39%. Vous croyez que la semaine prochaine, il va dire « je me suis trompé, je vais faire 20%. »
Non, il en est capable. Il l'a fait sur le Canada. Oui. Le Canada a reculé.
Ça n'a pas marché. Il y a eu une résistance des Canadiens. Voilà. Il y a eu une tentative de négociation. Ça n'a pas fonctionné.
Mais ça continue. La partie de poker continue.
Mais que fait aujourd'hui le Canada? Ils appliquent 25% de taxes aux produits américains. Donc, on est dans la guerre commerciale. Et la négociation n'a pas fonctionné. Donc, et je vois mal Trump reculer en disant « mes chers compatriotes, je me suis trompé. » Le tableau que je vous ai donné.
C'est intéressant ce que vous dites sur la réalité de la menace. Parce qu'Emmanuel Macron dit attention, ne nous précipitons pas, attendons de voir, ne réagissons pas dans l'urgence. Est-ce que c'est possible, en fait, qu'il bluffe et qu'il fasse rien du tout?
Non, rien du tout, non.
Enfin, rien ou peu, en tout cas.
Il est tapé très fort avec des chiffres ahurissants. En attendant que tous les indicateurs donnent leurs commentaires, la bourse, les consommateurs, l'opinion. Il a commencé à avoir des difficultés électorales. Regardez le vote pour une juge dans le Wisconsin. Et avec les partenaires commerciaux, parce qu'en même temps que des concurrents et des adversaires, c'est des partenaires, eh bien, un jeu d'échange, de négociation. C'est quand même un homme d'affaires. C'est pas un militaire, c'est pas un artiste, c'est pas seulement un politique, c'est un homme d'affaires. Donc il y a une marge de manœuvre dans ce temps qui est imparti. Et puis... peut-être qu'il aura le soutien des écologistes. Parce que, en fait, là, il va faire baisser le commerce mondial.
on va moins s'échanger de cargos, de containers. La trace carbone de l'économie mondiale va peut-être baisser.
Vous devriez peut-être applaudir, monsieur. Alors attendez, de grands progrès
dans la spéciale,
la trace carbone du monde va diminuer.
Dans la spéciale de BFM tout à l'heure, il y a un téléspectateur qui a demandé à Maxime Switek, finalement, au fond, est-ce que Trump n'est pas le meilleur écolo, puisqu'il va faire baisser le commerce mondial. Et donc, c'est bon pour la planète.
Sandrine Rousseau, c'est bon pour la planète, ces droits de douane ?
Alors, quand il menace d'envahir le Groenland ou de séparer l'Ukraine en plusieurs parties en fonction des ressources naturelles, non. Il n'est
absolument
l'allié des écologistes. Par contre, ce qui se passe, c'est quand même que derrière cela, et il faut bien comprendre, c'est une guerre, ce que fait Trump, là, c'est une guerre d'appropriation des ressources. Je tiens vraiment à le dire, parce que c'est une guerre commerciale avec en font une appropriation sauvage des ressources indispensables au système économique tel qu'il est
mais
actuellement.
Mais aussi une relocalisation,
aujourd'hui, la Chine est la principale c'est celle qui possède le plus de ressources rares, de gisements de ressources rares. C'est-à-dire qu'elle a investi depuis des années et des années pour posséder ces ressources rares. En cela, en fait, les États-Unis sont dépendants de la Chine. Et donc, la question, ça va être la Chine, que va-t-elle faire vis-à-vis de ces ressources rares et comment va-t-elle... Mais et c'est pour ça que Chine... Trump essaye d'avoir une partie de l'Ukraine, parce qu'en Ukraine, il y a ces ressources. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans un moment d'accélération et de continuité d'un système capitaliste qui souhaite s'auto-entretenir et continuer sa dynamique, là où on a une limite physique à ce qu'il
y a. Et le commerce... J'aimerais juste, avant de vous donner la parole, Yves, qu'on regarde cette séquence ce soir de Donald Trump, alors qu'on disait les marchés financiers américains ont perdu 3,1 milliards de dollars en valeur. Regardez ce soir le show Trump.
C'est la carte gold Trump. Et sur la carte, c'est qui ? C'est moi. Bien, l'économie américaine était malade, très malade. Nous avons hérité d'une économie terrible, avec beaucoup de problèmes, la désindustrialisation, des usines fermées partout. Nous avons perdu 90 000 usines depuis l'ENA. 90 000. C'est incroyable. Et près de 6 millions d'emplois. Donc le patient était malade. Il vit une opération en ce jour de la libération. Nous allons avoir un pays qui va se développer, qui va connaître un essor. Ça va être incroyable. Nous avons des milliers de milliards de dollars qui arrivent.
S'effondre, mais ça va être incroyable.
Oui, mais il faut raisonner pas à court terme comme on attend.
Non, mais elle est quand même lunaire, cette séquence.
Oui, justement, elle est lunaire. Je vais vous dire pourquoi. Ouais. Parce que je pense qu'il fera moins le pharo dans quelques temps. D'abord, sur le plan commercial, il faut le savoir que quand on fait une voiture aux États-Unis, on fait une voiture avec des produits qu'on importe. Qu'on importe du Canada, qu'on importe du Mexique. Et au Figaro, on a fait une enquête sur tous les produits qui sont importés actuellement des pays limitrophes des États-Unis pour faire des voitures. Produits qui sont hyper taxés maintenant. Ça ne marche pas, son truc. Ça ne marche pas. Avec le Canada, ça ne marche pas. Un reportage qui va sortir bientôt, qui va vous montrer que ce qu'il veut mettre en place, c'est impossible. Parce que si vous voulez faire un produit à 100% américain, vous ne le pouvez pas. Mm-hmm. Vous êtes obligé d'importer des pièces détachées, des trucs qui ne se font qu'ailleurs. Et ça... Bah, ça va être un problème majeur.
Oui, mais il va passer la deuxième chose,
c'est que évidemment qu'il va y avoir une incidence sur le train de vie des Américains qui d'ici à 2-3 mois va être terrible. Mais va être terrible. Ça conjugué à tout ce qu'il fait, parce qu'il mène une guerre mondiale, tous azimuts, ce qu'il n'arrive pas à faire avec l'Ukraine, parce qu'il n'arrivera pas à faire la paix en Ukraine, parce que ses projets d'invasion du Groenland, tout ça va mettre, ça va être un bazar terrible. Et toutes les promesses électorales qu'il aura mises sur la table seront en échec.
Avec peut-être un revirement de l'opinion.
Une opinion publique américaine qui risque, pour le coup, qui est complètement inexistante actuellement et qui pourrait se réveiller.
Avant de parler de notre politique franco-française avec vous, Sandrine Rousseau, j'ai une dernière question sur les ripostes possibles, les leviers possibles de la part de l'Union européenne. Est-ce qu'on pourrait aussi, avec le Canada, avec le Royaume-Uni, l'Union européenne, supprimer supprimer les droits de douane et faire une espèce de zone de super libre-échange, parce que ça rendrait...
Le sud global,
non,
on serait avec le sud
non,
global.
Non, mais je veux dire, ça rendrait foudrage les États-Unis et Donald Trump.
Bah, il y a déjà des accords commerciaux avec le Canada, avec l'Angleterre, avec le Royaume-Uni. Bon, après, pour moi, c'est pas la riposte la plus intéressante. Exactement. La riposte la plus intéressante, c'est vraiment d'aller taper sur ce qui fait mal, c'est-à-dire, encore une fois, les GAFAM. Et parce que vous parliez de taxation des services, mais il y a aussi la question de l'appropriation des données qui, pour l'instant, est gratuite, enfin, qui est collectée de manière gratuite et qu'on pourrait très bien rendre moins gratuite. Et en fait, là, aujourd'hui, il faut monter le rapport de force parce que vous dites que c'est un négociateur Trump, mais en fait, c'est surtout quelqu'un qui ne comprend que le rapport de force et qui va augmenter le rapport de force jusqu'à ce qu'il écrase la partie adverse ou que lui soit écrasé. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment... Enfin voilà, il n'a pas caché ça, il a toujours été comme ça, il est dans un... Et je pense que l'Europe ne doit pas être trop faible face à ce qui représente quand même un danger très réel d'un éclatement aussi européen. Parce qu'on
Sans rentrer dans une spirale protectionniste.
On a parlé de notre inflation, mais il y a aussi la possibilité d'avoir un éclatement des institutions européennes.